Matthieu et le chapitre 8, on va lire les versets 16 à 34. J'aimerais qu'on lise l'ensemble de notre texte ce soir avant que je procède à y aller section par section. Mais je voulais qu'on ait un peu l'idée d'ensemble. C'est quand même une assez grande section, mais on la considère comme un tout parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la semaine dernière, j'ai dit que les chapitres 8 et 9, c'est trois séries de trois miracles. OK? Neuf miracles que Jésus fait. Et donc, on a vu les trois premiers la semaine dernière. Aujourd'hui, on voit les trois seconds, les trois deux qui sont en deuxième. Et c'est pour ça qu'on le prend comme une section ensemble, puis vous allez voir ce qu'on va tirer comme leçon de ça. Donc, on peut lire au verset 16, à partir du verset 16. « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer de l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont leur tanière et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Verset 23, « Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? » Lorsqu'il fut sur l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Il leur dit, « Allez. » Et ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita dans les pentes escarpées de la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent, ils allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors, toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Wow! Pas mal de stock à considérer là-dedans. Comme j'ai dit, on traite ça comme une section parce qu'on a vu, je peux vous remarquer, trois miracles, et c'est amené ici, dans le fond, les trois groupes de miracles, qui ont le but de manifester la puissance de Jésus-Christ. Parce que, je vous rappelle, après le sermon sur la montagne, hein, Jésus, dans chapitre 5, 6 et 7, a parlé comme étant le roi, celui qui a l'autorité sur le royaume qui vient instaurer. Et là, les gens auraient pu se dire, oui, on entend quelqu'un parler comme ça, mais qu'est-ce qu'il nous dit vraiment? Qu'il est ce qu'il dit être. Alors, les miracles qu'on voit à partir du chapitre 8 et 9, c'est pour confirmer qui Jésus est. Ça démontre qu'il est vraiment le Messie qui devait venir. D'ailleurs, on va voir ça dès le début avec la référence à Ésaïe 53. Et donc, Jésus donne la preuve qu'il est vraiment le roi, Dieu venu sur terre, comme il l'a dit l'être. Et il y a un pattern qui est bien unique ici dans notre texte de ce soir. C'est que les trois miracles qui sont rapportés sont une révélation de qui Jésus est, OK? On va voir comment. Mais aussi la réaction de ceux qui sont témoins de ces miracles-là sont une révélation de certaines de nos tendances pécheresses. Donc, les miracles ont un double but révélateur. Ils révèlent qui nous sommes, puis il révèle qui Jésus est. Et ces tendances pécheresses-là, c'est souvent ce qui nous aveugle ou qui nous empêche de bénéficier des attributs divins que Jésus a manifestés, comme celui qui a le contrôle sur le monde physique, sur le monde spirituel, sur les maladies. OK? Et Matthieu nous présente les choses qui les met en relation vraiment très proches l'une de l'autre, en relation symbiotique, où est-ce qu'ils sont littéralement reliés l'un à l'autre. OK? Et c'est pour ça que le titre de mon message ce soir, c'est « Des contrastes humiliants ». La divinité de Jésus, sa toute-puissance, est présentée de manière éclatante parce qu'elle est sur le fond de la noirceur de la nature humaine. Donc, c'est des contrastes humiliants, mais c'est pour mettre encore plus de l'avant que Jésus est vraiment unique, le Messie qui devait venir, et ça s'est mis en contraste avec notre nature humaine. OK? Et merci, Seigneur, le miroir de la parole nous met face à nous-mêmes là-dedans, parce que qu'on ne regarde jamais les gens dans la Bible en pensant que nous, on n'est pas comme eux, puis une chance que nous, on n'est pas comme eux, parce que si on est comme ça, on prie comme le pharisien qui dit « Je te remercie que je ne suis pas comme le reste des hommes, puis pas comme ce publicain. » Non, on est la même nature qu'eux autres. Donc, on a le miroir de la parole pour nous montrer des tendances pécheresses que nous avons tous. Et juste encore un peu comme en introduction, dans les versets qu'on a lus, mais spécialement à partir du verset 18, on voit vraiment une démonstration par les miracles de Jésus qu'il n'y a pas de limite à sa puissance, parce que Jésus exerce sa puissance dans les domaines physiques, avec les maladies puis la tempête, le domaine spirituel puis le domaine angélique, hein, avec les anges, les démons, les gens déchus, qu'il chasse comme ça par son autorité. Mais il y a une exception. Et c'est vraiment aussi ce qui est mis de l'avant dans notre texte ce soir. Les limites que nous lui imposons, pas que Dieu est limité, mais nous limitons Dieu dans nos vies avec notre manque de foi. On ne laisse pas Dieu agir selon toute sa puissance, pas parce que Dieu est limité, c'est nous, un peu comme les Galiléens. « Oh, va-t'en de notre territoire. » La foi ou l'incrédulité va déterminer à quel point Dieu peut agir selon sa grande puissance. Le problème, ce n'est pas avec Dieu, c'est avec la foi. Est-ce qu'on laisse Dieu agir selon sa grande puissance? Donc, pour prendre les éléments qu'on a vus, on peut aimer notre père et notre mère plus que Dieu et ainsi limiter ce qu'il peut faire dans notre vie, comme dans les versets 21 et 22. On peut laisser la peur nous envahir comme les disciples dans le bateau et pas le laisser agir comme il voudrait. Ou on peut même le renvoyer de notre territoire, comme l'ont fait les Gadaréniens. Tout ça, c'est de l'incrédulité. Donc, tout ça, c'est vraiment, comme j'ai dit, des contrastes humiliants entre Jésus qui il est et nous qui nous sommes. Et ce qu'on va voir, c'est trois contrastes entre la nature de Jésus-Christ et notre nature à nous autres. Le premier contraste, c'est dans les versets 16 à 22, sa nature messianique et notre nature adamique. Mettons que les deux sont bien différents. Regardez, au début du verset 16, on voit que le soir étant venu, donc ça c'est après, vous savez, il est allé dans la maison de Pierre, il guérit la belle-mère de Pierre. Et donc le soir étant venu, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Remarquez ici la différence entre le dévouement de Jésus-Christ par sa nature même. Ici, avec, on voit son œuvre messianique, il répond aux besoins des gens, okay? il est guéri comme ça, il chasse les démons. Puis, mettons ça en contraste avec l'obéissance partielle ou les excuses humaines comme on voit au verset 21. Un des disciples, OK, dit un autre d'entre les disciples, il dit « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. » Ça, c'est la pensée de « Seigneur, j'ai du temps pour toi, mais c'est moi qui vais te terminer quand, puis comme. » je veux bien te suivre, mais j'aimerais ça faire certaines choses avant, OK? Donc, on voit ici déjà un premier contraste, le dévouement total de Jésus. Jésus, on le voit souvent qu'il se fait déranger. Puis en fait, il se laissait déranger. Il y a des gens qui arrivaient, comme maintenant, une femme qui lui suivait, puis les disciples disaient, ah ben là, arrête, elle nous suit. Puis Jésus, il s'occupe d'elle, la femme syro-phénicienne, hein? Il s'occupe d'elle, puis versus les excuses qu'on peut donner, une obéissance partielle mitigée. En fait, ce qu'on voit ici, Jésus agissait selon sa nature comme étant le Messie. Que le prophète Ésaïe lui-même, ici, nous confirme que c'est ce qu'il devait être. Okay? Et savez-vous quoi? Jésus agissait selon sa nature messianique comme étant le serviteur de l'Éternel qui, comme Ésaïe le dit, a pris nos infirmités, s'est chargé nos maladies. Je vais expliquer ça dans un instant. Nous, avec nos excuses, puis la procrastination, l'obéissance partielle, on agit selon notre nature. Encore dans Ésaïe, ça dit, nous étions tous comme des brebis, errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Ésaïe continue en disant, notre justice est comme un vêtement souillé. Jérémie dit que le cœur de l'homme est désespérément malin, est tortueux, désespérément malin. OK? Vraiment, tout qu'un contraste entre les deux natures. Une qui est dévouée ou selfless, l'autre qui est égocentrique ou self-centered. En anglais, ça se dit selfless, self-centered. Ça, le contraste, on dit. Égocentrique ou égo. Parce qu'il n'y a pas de sans égo, ça se dit pas. Sans égo, en tout cas. Bon, peu importe, c'est correct. Voilà pourquoi, écoutez bien, notre seul espoir, c'est d'avoir une nouvelle nature. D'ailleurs, pourquoi la nouvelle naissance, là, c'est pas optionnel. C'est le seul espoir qu'on a parce qu'on a une nature adamique, irrégénérée, qui doit être supplantée par la nouvelle naissance, une nouvelle nature. Dieu qui vient habiter en nous puis nous donner sa nouvelle nature. Ça, on a ça à plusieurs endroits dans la parole de Dieu. Dans Jean 3, Jésus en parle avec Nicodème. Dans Romains 8, hein, ça nous dit que Jésus est venu dans une chair semblable à la nôtre. Pourquoi? Parce que c'était impossible à la chair d'accomplir la loi. Il fallait que Jésus le fasse à notre place. Parce que nous, c'était impossible qu'on accomplisse la loi. Il fallait que Jésus vienne dans une chair semblable, pas identique, semblable. Jésus était sans péché. Et maintenant, pour revenir sur l'accomplissement prophétique, ici, ce qui est cité là, dans le verset 17, c'est Ésaïe 53, verset 4. Et c'est un passage bien important, parce que dans Ésaïe 54, il y a deux mots ici. OK, bon, si on regarde dans nos Bibles ici, dans le Nouveau Testament, ça dit « Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies ». Il y a une petite différence. Dans Ésaïe 54, vous allez voir, ça dit « Il a porté, pris, porté », puis ça prend encore le mot « chargé ». OK? Mais dans Ésaïe, qui est écrit en hébreu, le temps de verbe est bien spécial. Parce qu'on n'a pas ça en français, mais on appelle ça le temps, pas si ça existe en arabe, là, mais le temps parfait prophétique. Ça veut dire que dans la langue hébreu, là, ça l'annonce un événement futur comme s'il était déjà complètement, parfaitement accompli. OK? C'est pas étranger au prophète, évidemment, on s'entend, là, tu sais. Donc, quand ça dit ici, il a pris, c'est drôle, c'est au passé. Puis Jésus, même encore ici, il n'avait pas encore été sur la croix, mais imaginez-vous, Ésaïe, c'est encore plus avant, il dit, il a pris, c'est pour ça qu'on nous dit, c'est donné au passé, nos infirmités, c'est chargé de nos maladies, c'est donné au passé comme si c'était déjà parfaitement accompli. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus avait déjà accompli la guérison du péché et ses conséquences par la rédemption de la malédiction de la loi. Ça a été annoncé, on sait que Jésus l'a fait sur la croix, c'est ce qu'il a fait à la croix. Mais selon le plan de Dieu, c'était déjà comme c'était déjà réglé, OK? Parce que c'était dans le plan parfait, souverain de Dieu. Donc ici, quand Matthieu cite Ésaïe, il veut nous rappeler que Jésus-Christ a porté, a pris la culpabilité de nos péchés, la malédiction de nos péchés. Ça dit dans Galates, chapitre 13, verset 3, que Jésus est devenu malédiction pour nous autres. Il est devenu, je vais vous le lire là, parce que ça dit, car quiconque, maudit et quiconque est pendu au bois. Je vous lis Galates 3, 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Donc, c'est quoi ça que ça veut dire? Ça veut dire que la rédemption nous garantit, et là, faites-vous en pas, je ne suis pas devenu pentecôtiste, mais écoutez bien ce que je vais vous dire. La précision est importante. La rédemption nous garantit la guérison physique et la victoire finale sur la mort, le péché, tous nos ennemis. Mais l'accomplissement, le plein accomplissement n'est pas encore arrivé. Ça va être à la restauration finale de toute chose. Mais dans l'œuvre de Christ, c'est vrai. Est-ce que c'est pas vrai que ça dit que toute larme est essuyée de nos yeux, plus de maladie, plus rien? C'est tout compris dans l'œuvre de Christ. Et Jésus, quand il a fait ça sur terre, quand il était sur terre, c'était l'accomplissement dans, sur terre. Mais on s'entend parce que pour ça, on croit Jésus peut guérir, tout ça. Mais il n'est pas obligé. Je pense que c'est hier qu'on a parlé ou un matin, je ne me rappelle plus. Je suis un peu mêlé, j'ai prêché ces derniers temps, mais je veux dire, Dieu peut décider de nous guérir ou il peut décider de nous laisser malade puis de se glorifier, c'était un matin, de se glorifier à travers comment il va former Christ à travers la maladie, OK? Mais on peut être certain, l'accomplissement complet, là, l'œuvre du calvaire, oui, va même, tous les effets de la chute vont être complètement tout renversés. C'est ça que ça veut dire ici, Ésaïe. Puis ici, ben, Jésus le faisait, on peut dire, de façon partielle, parce que c'est pas comme s'il a tout pris, tous les malades de toute la terre, puis il a tout guéri. Non, mais en faisant ça, Jésus montrait sa nature messianique. Comprenez-vous ce que je suis en train de vous dire? C'est un accomplissement, OK? C'était partiel, puis le parfait complet, c'est à venir. Mais déjà, tout ça, là, ça s'est tout accompli par la croix. Bon. J'espère que je ne vous ai pas trop tout mêlé avec ça, mais je voulais prendre le temps d'expliquer parce qu'il y a des gens, beaucoup de gens qui ont de la misère avec ce verset-là. Ah, ça veut dire que c'est Dieu nous garantit qu'on va être guéri de toutes nos maladies. Oui, mais attends un peu, on n'est pas encore rendu là. Tu sais, comme je te disais, Dieu nous garantit qu'on ne va plus jamais pleurer, qu'on n'aura plus jamais de peine. Oui, c'est vrai, mais on n'est pas encore rendu là. Parce que si on, parce que tout est inclus dans l'œuvre de Christ. Il va tout enlever les effets du péché, mais ce n'est pas encore tout pleinement accompli. Certainement, quand on est sauvé, on en bénéficie déjà. Parce que même dans le domaine physique, un enfant de Dieu qui prie, je connais des gens, je connais des pasteurs, pasteur Fuller qui est déjà venu prêcher ici, il avait le cancer, il a prié, Dieu a complètement enlevé le cancer de son corps. Dieu peut faire ça. Je connais d'autres chrétiens qui avaient des pensées lourdes, tout ça, puis Dieu leur donne, il restaure la joie par le salut, puis il fait, Dieu peut faire tout ça, mais complètement puis parfaitement, c'est encore à venir. Donc on en bénéficie un peu comme un dépôt, une garantie. Mais c'est juste un avant-goût. On soupire après notre pleine rédemption. OK? Maintenant, lorsqu'on comprend tout ça, ça l'accentue d'autant plus le contraste entre la nature messianique et notre nature adamique. Parce que quand on voit qu'on bénéficie d'une telle œuvre rédemptrice, libératrice, qui un jour va être parfaite, mais déjà on en bénéficie par le salut, combien l'attitude de remettre à plus tard notre dévouement pour Christ, pour quelqu'un qui est si dévoué que Christ, qui est allé jusqu'à la croix du calvaire, comment une attitude mitigée de se donner à Dieu est inexcusable et condamnable même. Que Dieu nous apprenne de cette manière à tout évaluer selon l'œuvre rédemptrice de Christ, son œuvre parfaite. Savez-vous, c'est quoi? Si on fait ça, si on regarde toute notre vie à la lumière de l'œuvre parfaite de Christ, savez-vous quoi? L'effet que ça va avoir en premier, ça va réaligner nos priorités spirituelles. Savez-vous, mes amis, pourquoi que on procrastine, pourquoi qu'on n'est pas de tout cœur donné à notre Sauveur? Parce qu'on n'apprécie pas le calvaire. On n'apprécie pas l'œuvre parfaite de Christ. On le prend pour acquis. On ne se rend pas trop compte à quel point. Mais si on était imbibé, saturé de l'œuvre parfaite de Christ, de cette rédemption qu'il a accomplie pour nous, comme Paul il dirait, frère, je vous exhorte par les compassions de Dieu, ça c'est la croix, ça. par les compassions de Dieu, offrez vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est votre culte raisonnable, c'est pas trop demandé. Regardez jusqu'où Dieu est allé pour nous. Ça réaligne les priorités spirituelles. Quand on prêche Christ, quand on considère Christ dans toutes nos voies, son œuvre parfaite, ça change toute notre organisation du temps, de nos pensées, de nos priorités spirituelles. Je pense que c'est la question sous-jacente à ce qu'on vient de considérer. Maintenant, on arrive dans les versets 23 à 27. Le deuxième contraste. Le premier, c'est entre la nature messianique de Jésus et notre nature adamique. Le deuxième, c'est entre sa puissance sur le monde naturel versus notre tendance à douter de sa capacité. Donc ici, qu'est-ce qu'on a dans les versets 23 à 27? C'est un de ces épisodes qui nous est relaté dans les évangiles. Dans la barque, la tempête, ça va pas bien. Mais là, Jésus est dans le bateau. Puis qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son occupation? Il dort. Je pense que Jésus n'était pas très nerveux. Puis je pense qu'il y avait un message aussi là-dedans. Jésus n'avait aucun souci, aucune inquiétude, au point qu'il pouvait même dormir. Vous dites, ouais, mais lui, c'est Dieu, puis tout ça. Puis, OK, on voit le contraste, n'est-ce pas? Puis les autres s'adressent à lui, « Seigneur, sauve, nous périssons! » Verset 26, il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Il menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces versets nous enseignent qu'il y a un lien, il y a une connexion entre la toute-puissance de Dieu puis nos vies. Ce lien, c'est quoi? C'est la foi. Notre accès au Dieu Tout-Puissant, c'est la foi. Et donc, par logique, ce qui coupe notre accès, c'est l'incrédulité. Notre manque de foi court-circuite la dynamique spirituelle de notre relation avec Dieu. Et la peur, c'est la manifestation qu'on ne reconnaît pas, qu'on ne possède pas la présence de Dieu dans nos vies comme lui voudrait l'être présent dans nos vies. Ça nous aide à comprendre pourquoi Jésus leur fait le reproche. Okay? Il leur dit qu'il n'avait pas besoin d'avoir peur parce que lui-même était dans le bateau. Sa présence était là. Le fait que Dieu était présent, il aurait pu dire, ah ben là, on n'a pas à s'en faire. Moi, j'aurais eu peur comme eux autres. Je veux dire, j'ai déjà été sur des bateaux, là. Puis j'aime manger puis tout ça, mais un bateau qui n'est pas trop certain, là, oh, j'ai tendance à mal de mer, moi, tu sais, genre vert, là, puis des différents tons de vert, là, j'ai déjà vécu ça. Puis un gros bateau qui branle de même, puis, oh, pas sûr, tu sais. Un avion, c'est un peu pareil, là, quand ça branle pas mal l'avion, mais bon. Maintenant que je suis sauvé, c'est différent, là. Je me dis, au moins, si je meurs, c'est pas grave, je vais juste être plus proche pour monter direct au ciel, mais bon. Donc, Jésus est avec eux-mêmes dans la barque, et savez-vous, c'était significatif, puis même pour ses disciples. C'était quoi le schéma de référence biblique des disciples dans le Nouveau Testament? Est-ce qu'il y avait le Nouveau Testament? Non. Les gens du Nouveau Testament avaient, ben, plus vers la fin, ils l'avaient, là, mais dans les évangiles, il n'y avait pas de Nouveau Testament. Il ne s'était pas encore écrit. Il y avait juste l'Ancien Testament. Puis quand je dis juste, c'est pas pour le diminuer, c'est juste pour dire que c'est ce qu'il y avait. Puis à beaucoup de reprises dans l'Ancien Testament, Dieu pourrait conforter ses serviteurs, les prophètes, des gens comme Josué, un homme de guerre, OK? C'est quoi qu'il dit? N'aie pas peur, car je suis avec toi. Donc, il y avait ça comme schéma de référent. Il aurait pu dire, ah, mais hey, comme il a dit à Josué, comme il a dit, comme Agé a dit au leadership d'Israël, n'aie pas peur, je suis avec toi. Il aurait pu vaincre la peur de même lorsqu'elle était à son comble, en se rappelant que Dieu était avec eux autres. Mais comme nous autres, en tout cas, moi je m'inclus là-dedans, ils ont quand même eu peur. Moi je pense que j'aurais quand même eu peur. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression que ça... Pourquoi? Je pense que c'est une question de perspective spirituelle. Parce que, OK, avez-vous remarqué qu'avant de reprendre le vent et la mer, il a fallu que Jésus reprenne les disciples. Parce que la mer n'a pas de problème de foi. En fait, la mer, aussitôt que Jésus a dit un mot, ça s'est calmé. Il y a un grand calme. Je sais pas pour vous, mais pensez-vous qu'après que Jésus ait repris les disciples en disant « Pourquoi avez-vous douté, gens de peu de foi? » Pensez-vous qu'il y avait un grand calme dans leur cœur? Même ça, je ne suis pas sûr. Pour dire comment le cœur humain est, Jésus est capable de calmer le vent et la tempête de mer. Mais mes amis, nos cœurs humains, c'est une autre histoire. Il a fallu que Jésus commence par... Parce qu'on voit même après ça, en tout cas, je ne sais pas s'il était calme, il était certainement troublé parce qu'il dit « Quel est celui-ci à qui obéissent même le vent et les vents et la mer? » Toute une question de perspective spirituelle. Je viens de référer au livre d'Agé. Puis dans le livre d'Agé, un moment très important. Ben, le livre d'Agé a été écrit, le prophète Agé écrivait pour exhorter après, bon, parce que c'était la fin du temps à Babylone, vous savez, Israël a été amené en captivité à Israël, Juda, le royaume du Sud, a été envoyé en captivité à Babylone. Et là, 70 ans après, Dieu a suscité quelques prophètes, dont Agé et Zacharie, c'était des contemporains, pour exhorter le peuple à retourner pour construire le temple. Okay? Et donc Agé, qui lui a été suscité par l'Éternel, ça nous dit que avant que tout ça puisse être mis en branle, que Dieu a d'abord leur adressé et dit « N'ayez pas peur, je suis avec vous. » Puis après ça, il a réveillé l'esprit du leadership, Zorobabel, OK, Josué, le nom. C'est pas le Josué qui était le sidekick de Moïse, là. C'est un autre Josué d'après, là. Puis, ils ont pu, comme ça, aller reconstruire le temple. Donc, remarquez l'ordre. Avant qu'ils puissent leur réveiller l'esprit, il a d'abord fallu qu'il les rassure qu'il était avec eux. Parce que je vous garantis, après 70 ans à Babylone, avec le coup dur qu'ils ont mangé, ils devaient vraiment se douter, est-ce que Dieu est encore avec nous? Dieu nous a probablement abandonnés. On est dans une nation païenne qui veut rien savoir de Dieu. Puis là, nos enfants apprennent les voies des Babyloniens. Puis nous, qu'est-ce qui arrive? Je suis pas mal sûr qu'ils devaient se douter que même Dieu était avec eux. Savez-vous que ce principe est encore bien valide de nos jours? Comment avoir un réveil de foi, de victoire sur nos peurs, sur nos doutes, si on n'est pas convaincu que Dieu est avec nous? Puis même, je veux dire, si on n'est pas convaincu que Dieu prend plaisir en nous, que Dieu, on est dans sa volonté. Je vous demande la question franchement ce soir. Croyez-vous que Dieu prend plaisir en vous? Savez-vous c'est quoi l'erreur qu'on fait? On regarde dans notre péché, puis c'est bien parce qu'on ne veut jamais excuser le péché, mais on se dit, Dieu certainement ne prend pas plaisir en moi. Puis on passe à côté de Jésus-Christ. On passe à côté de ce qu'on est en Jésus-Christ, parce que oui, Dieu prend plaisir en ses enfants, pas à cause de ce qu'on est. Mais il faut distinguer la conviction du Saint-Esprit puis l'accusation de Satan. La conviction du Saint-Esprit va dire, ce péché-là, ça me déplaît. Fuis vers Christ. Flee to Christ. Va te réfugier auprès de lui. Le pardon est en abondance auprès de lui. La restauration. OK? Ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Mais Satan, lui, c'est l'accusateur des frères. Il dit, avec un péché de même, Dieu t'abandonne. Ah, Dieu n'est pas avec toi. La colère de Dieu est autour. T'as-tu vu comment tout ça va mal? C'est pas surprenant. Ça, mes amis, j'aimerais vous dire, je crois, puis c'était vrai pour le leadership du temps d'Agé et de Zacharie. Je crois que ce qui détruit notre leadership spirituel des hommes, je parle spécialement à nous autres, mais c'est bon aussi pour tout le monde. Mais si on n'est pas convaincu que Dieu est avec nous, que Dieu prend plaisir en nous, comment est-ce qu'on va avoir le courage d'avancer? Et je pense que c'est ce qui coupe les jambes de la majorité d'entre nous, les hommes. Parce que, savez-vous, Satan sait que si les hommes sont découragés et ils se disent, « T'as-tu vu comment ça va mal, Dieu n'est pas avec nous? » Il vient de neutraliser l'œuvre de Dieu. Mes amis, on a besoin d'être convaincus. Puis là, je vous dis, là, moi-même, ces derniers temps, ça va tellement. On est tellement dans des mauvais moments. J'ai eu des moments de découragement comme je n'ai pas eu, je me demande, dans ma vie chrétienne. Je veux dire, ça va pas bien, là. On regarde, est-ce que Dieu nous a... Je me sens comme un juif à Babylone. Mais c'est pour ça que Dieu leur dit, « Je suis avec vous. » Puis là, il a réveillé l'esprit. C'est comme s'il a fait allumer, « Hey, j'ai un plan, là. » Il a réveillé l'esprit de Zorobabel. Puis les choses ont avancé, puis sont allées. Puis ça a été, je vous en ai déjà parlé, hein, ça a été tout financé sur la carte de crédit du roi. Puis ils ont pu aller, puis restaurer le temple, le mur, la muraille autour de Jérusalem. Tout s'est passé exactement comme Dieu l'avait dit. Parce que Dieu était avec eux malgré eux. Pensez-vous qu'Israël méritait? Non, il avait rejeté Dieu, puis il était en captivité parce qu'il avait été idolâtre, puis il avait négligé Dieu, puis ses avertissements à répétition par les prophètes. Puis on n'est pas mieux qu'eux autres. Mais Dieu est le même. Dieu est quand même avec son peuple. Pourquoi? Parce que si vous êtes ici, puis vous êtes lavé dans le sang de Jésus-Christ, vous avez été racheté à un grand prix, il n'y a rien qui peut vous séparer de l'amour de Christ, de Dieu en Jésus-Christ. Même votre propre péché, même votre indifférence, même le fait que vous avez tombé, que vous manquez de foi, rien de ça. Mes amis, il faut qu'on s'accroche à ça. Dieu est plus grand que notre péché. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Mes amis, c'est super important ce qu'on voit là. C'est une question de perspective spirituelle. Puis faites attention à quelle voix vous écoutez. Le Saint-Esprit n'est pas l'accusateur. Il convainc. Il va dire, c'est du péché. Tolère pas ça. Ça détruit les autres autour de toi. Mais il nous pousse à Christ. Puis il nous amène à aller vers celui qui est la solution. Tandis que l'accusateur des frères, il nous met à terre. Puis il nous montre comment il n'y a pas d'espoir. Puis qu'on est donc terrible. Puis qu'on est... OK? Il faut distinguer entre les deux voies. On est dans une guerre spirituelle. Ça amène au troisième contraste ce soir. Parce que si je ne me rassure pas comme ça, d'ailleurs, n'est-ce pas que Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde? » C'est une promesse inconditionnelle, ça. Il n'a pas dit « Ah, si vous êtes fin, je vais être avec vous. Peut-être jusqu'à la fin du monde si vous êtes gentil. » Non! C'est « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mais... pour pas qu'on tombe dans le piège que je viens de décrire, mais si on tombe dedans, on va arriver immanquablement au troisième piège ici avec le troisième contraste, non seulement une nature entre la nature de Jésus puis la nôtre, entre sa puissance sur le monde physique puis notre tendance à douter, mais dans les derniers versets, on a sa puissance sur le monde spirituel versus notre tendance à l'apathie puis à l'indifférence. On a déjà lu les versets, je veux juste vous remarquer ici, Jésus guérit les démoniaques, il envoie les démons dans des pourceaux à la demande des démons même. Mais regardez à la fin, ok, les gens apprennent la nouvelle, verset 33, « Ceux qui les faisaient paître, les pourceaux, s'enfuirent et allèrent dans la ville, raconter tout ce qui s'était passé et ce qui est arrivé aux démoniaques. » Donc les gens, ils étaient au courant non seulement des pourceaux, mais ils savaient que ces deux démoniaques-là avaient été libérés. Ils l'ont dit, ok? Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus pour dire « Merci Jésus, tu as eu compassion de ceux qui ont été esclaves pendant si longtemps des... » anges déchus desquels il était auprès. Est-ce que c'est ça que ça dit? Non. Dès qu'il le vit, il le supplia de quitter le territoire. Il était matérialiste. Il était indifférent aux choses spirituelles. Tout ce qu'il pensait, c'était les pourceaux. Est-ce que Dieu peut donner d'autres pourceaux pour s'occuper de ça? Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui était capable de libérer deux démoniaques pris? Non, ça ne se pouvait pas. Les pourceaux, c'était le monde physique. Ici, Jésus a agi dans le domaine spirituel, puis a montré sa puissance dans le domaine spirituel comme une autorité sur les démons. Mais les gens étaient apathiques, indifférents. Ils n'en ont pas fait encore. Oh, wow! Et ça, c'est un problème de sensibilité spirituelle. Si le premier problème en était un de priorité spirituelle, le deuxième en était un de perspective spirituelle, ici, c'est un problème d'insensibilité spirituelle. Et c'est relié ensemble. Hein? Quand je perds mes priorités spirituelles, ça va m'amener à perdre ma bonne perspective spirituelle, puis finalement, je vais devenir insensible aux choses spirituelles. Et je vais avoir l'apparence de la piété, mais je vais en renier ce qui en fait la force. Mais remarquez la compassion de Jésus. Ici, ça dit deux hommes. Dit, oh, mais ça, j'avais lu l'histoire de Gadarénique, il n'y en avait pas un. OK, écoutez, dans Matthieu, ça dit qu'il y en a deux. Dans Marc, ça dit qu'il y en a un. Marc 5, les 20 premiers versets, c'est juste qu'il y en a un qui devait être plus notoire, plus connu, puis Marc se concentre sur celui-là. OK? D'ailleurs, ça dit, la façon que ça présente dans Marc, là, ça donne en détail, puis mon ami n'était pas reposant, celui-là avait des chaînes, puis Matthieu ne rentre pas dans ces détails-là, c'était pas son but. Donc, c'est comme si Matthieu nous donne la vue d'ensemble, il y en avait deux, puis il ne rentre pas dans les détails, c'est qui, tandis que Marc, il se concentre. Et lui, là, il faisait vraiment Dieu, puis Jésus l'a libéré, puis il donne beaucoup plus de détails sur lui. Pas une contradiction, c'est juste qu'il y en a qui s'est concentré sur un aspect puis l'autre sur l'autre. OK? Les évangiles, c'est souvent comme ça. Ils n'ont pas eu comme but de faire des choses copier-coller exactement identiques. C'est comme quatre personnes à un carrefour qui voient un accident, ils amènent chacun un angle différent du même événement. C'est pas pour contredire, c'est juste qu'il y en a un qui met l'accent sur une affaire, l'autre met l'accent sur un autre. Mais ces deux hommes-là étaient complètement esclaves dans le domaine spirituel. Il n'y avait plus de contrôle de leur vie. Ils étaient contrôlés par des puissances démoniaques déchues. OK? Puis ça fait d'autant plus ressortir l'apathie, l'indifférence des habitants de la ville qui, en comparaison, se sont souciés des choses secondaires. Mais, je veux dire, Dieu se soucie même des pas des moineaux, là, comment ils appellent? Des sparrows. Là, j'ai pourceau, puis là, ça me fait perdre le mot. Comment ils appellent les petits oiseaux, là? Que quand il y en a un qui tombe, Dieu, puis les cheveux sur la tête, là. Le sparrows. OK. En tout cas, c'est comme un moineau. C'est comme un moineau, c'est un oiseau très commun, là. Fait que pensez-vous, Dieu se soucie aussi des pourceaux, mais il se soucie encore plus des gens qui ont une âme éternelle. Donc, c'est ça ici le problème. Il était insensible aux choses spirituelles. Je pense qu'ici, il faut comprendre, il y a une saveur matérialiste à ça. Hey, tu nuis à notre économie et tout ça. Ils n'ont pas vu qu'il y avait quelqu'un qui était capable de chasser les démons. S'il est capable de chasser les démons, il est pas mal capable de faire d'autres choses. Ils ont complètement passé à côté de ça. Ils ont passé à côté de leur rédempteur qui venait de se manifester autour d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont juste vu des pourceaux. C'est tout ce qu'ils ont vu. Ce qu'ils avaient perdu à cause de Jésus, ils l'ont chassé. Wow, ça c'est de l'apathie, ça c'est de l'indifférence. Et vous pouvez en être certain, lorsqu'on se relâche dans nos priorités spirituelles, ça nous conduit toujours à ne pas avoir la bonne perspective spirituelle. Parce que Dieu n'est pas là où il devrait être dans notre vie, puis ça va toujours, ça aussi, aboutir à de l'insensibilité spirituelle. Je vais être apathique, je vais être... Donc, si je vois de l'apathie, de l'indifférence dans ma vie, je devrais remonter en arrière. Quelle est ma perspective? Est-ce que je vois que Dieu est avec moi? Est-ce que je reconnais Dieu dans ma vie? Est-ce que je vis à la lumière de l'œuvre parfaite de Christ? Je peux reculer encore plus. Est-ce que mes priorités spirituelles sont en fonction de l'œuvre parfaite de Christ? Est-ce que, comme Paul, à cause que je vois les grandes compassions de Dieu, les miséricordes de Dieu, est-ce que la réponse normale, c'est pas d'offrir mon corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu? Une bonne chose, on a chanté « Sonde-moi, oh Dieu, Dieu, sonde nos cœurs ». Parce que nos cœurs s'habituent à ces voies-là, puis on devient tellement habitué, ça devient normal. Mais c'est pas normal pour Dieu d'être apathique puis d'être indifférent. C'est pas la vie chrétienne normale. Vous savez, c'est quoi la vie chrétienne normale? C'est d'être réveillé. C'est le réveil. Là, je parle pas nécessairement de choses extravagantes, mais d'être en harmonie avec l'Esprit, de porter le fruit de l'Esprit, d'avoir la vie de Jésus-Christ qui s'exprime pleinement à travers nous. Ça, c'est la vie chrétienne normale. Et je crois que c'est la plus grande tragédie dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises, dans la chrétienté moderne, de s'habituer, d'excuser, de justifier, de normaliser ce que Dieu n'a jamais dit qui devait être normal. C'est tragique. On dit c'est normal, puis on devrait jamais dire que c'est normal. J'ai dit ce matin, vous rappelez-vous, c'est quoi le sens? OK, ici on voit la compassion de Jésus. On pourrait dire aussi la miséricorde de Jésus. La miséricorde, c'est délivrer quelqu'un de sa condition misérable. Rappelez-vous, je vous ai donné la définition avec le latin. miséricorde, misère, pensée, misère, puis corde, ça nous le dit moins. Si vous parlez, c'est quoi cœur? Hein? C'est inima. Et cardia, c'est dans qu'il y a un, je sais qu'en grec, ça l'est, mais cardia, c'est-tu un corazon? Ouais, ça, ça. Misère, puis cœur. Miséricorde, ça vient de ces deux racines-là. C'est-à-dire, l'idée, c'est vraiment ressentir la misère de l'autre dans mon cœur. C'est ça l'idée de la miséricorde. Okay? Ça va aussi avec le concept de compassion. C'est comme ça que Jésus se sentait par rapport à ces démoniaques. Puis c'est là qu'on voit le contraste. Il n'y avait pas ça, il n'y avait pas cette miséricorde. Les gens, les Gadaréens, ils n'ont pas senti la misère dans le cœur des deux démoniaques, de ces deux hommes-là qui étaient terribles. Mais c'est ça ce dont on a besoin pour contrer le fléau de l'indifférence. Vous savez quoi? Il y a une bonne nouvelle là-dedans. Vous savez qu'on n'a pas besoin de demander à Dieu de nous donner plus de miséricorde, plus d'amour. On a déjà tout pleinement en Jésus-Christ. Savez-vous, l'amour, ça nous dit que l'amour de Dieu, pas juste l'amour humain, là, qu'on peut, l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a donné. On l'a déjà, l'amour de Dieu. On n'a pas besoin d'y demander, on a besoin de se l'approprier, on a besoin de le remercier. Merci Dieu que tu m'as déjà donné cet amour-là. Merci que tu me rends capable d'aimer comme moi je ne serais jamais capable d'aimer. La puissance de la reconnaissance, quand on dit merci pour ce qu'on a déjà, ça nous ouvre les yeux sur comment Dieu était riche et généreux envers nous autres. Donc, le message qu'on a vu ce soir, c'est une étude en contraste. Hein? Vous avez vu vraiment la différence entre Christ et nous autres. Et ça fait ressortir, comme je disais, la beauté de Christ, l'éclat de son caractère, parce que ça met la noirceur d'une autre. OK? Un peu comme si on... Je pense pas que ça vous arrive très souvent, mais si vous achetez des diamants, c'est ce que le vendeur va faire. Il va prendre, d'habitude, c'est du velours noir, qui est très, très noir. Puis là, il va mettre les diamants sur le velours. Puis là, avec la lumière, il fait refléter pour montrer toutes les facettes du diamant, puis pour montrer comment les diamants sont précieux. Puis, OK? Le but du velours noir, c'est de montrer l'éclat des diamants. Bien là, ici, c'est la Matthieu met le velours noir de notre nature pécheresse pour faire ressortir la perfection de Christ. Mais tout ça, mes amis, ça ne devrait pas nous décourager puis nous faire regarder à nous-mêmes. On ne devrait pas regarder, « Ah, t'as-tu vu comment le velours est noir? T'as-tu vu comment ça fait dur? » Non, on devrait regarder au diamant, on devrait regarder à ce qui est précieux. On dit, « As-tu vu le grand Dieu miséricordieux qui, malgré des gens comme ça, malgré des disciples qui remettaient à plus tard, qui n'avaient pas les bonnes priorités spirituelles, qui n'avaient pas la bonne perspective spirituelle, malgré des gens dans une ville qui étaient insensés spirituellement, Dieu était quand même là. » Puis il est allé les rejoindre d'eux, puis il a eu compassion de eux. C'est à ça qu'on doit regarder. Et pour nos vies, comme je vous dis, c'est un message que je me prêche à moi-même, spécialement ces temps-ci. Le monde va mal, mais Dieu va pas mal. Et Dieu va jamais mal. Dieu n'est jamais surpris par rien. Dieu est un rocher, une autre retraite. On peut toujours aller à lui, que ça aille mal, que ça aille pas mal. Dieu est toujours là. Et donc, Dieu veut, puis est capable de changer nos mauvaises priorités spirituelles, notre mauvaise perspective spirituelle, puis notre indifférence. Dieu est capable. Qu'on regarde à lui ce soir. Qu'on regarde à ce Dieu rédempteur, ce Dieu qui est plein de compassion. Et alors que maintenant, je vous laisse, après que j'ai prié, vous allez pouvoir à votre tour prier. Que ce soit notre prière. Dieu, c'est à toi qu'on veut regarder. Dieu, c'est à toi qu'on s'attend. Dieu, on croit que tu es capable. Seigneur, on te remercie pour le fait que tu nous révèles qui tu es. Tu es tellement merveilleux, Seigneur. C'est beau de voir dans les évangiles les perfections de Christ manifestées comme ça au milieu de l'expérience humaine, au milieu de la dépravité humaine, la gloire de Jésus, Dieu fait homme, qui est venu parmi nous. Et Seigneur, comme un des cantiques le dit, si on regarde un instant à nous-mêmes, on est perdu. n'y a pas d'espoir en l'homme. Tu dis même dans ta parole, maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Ah, mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Il porte son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. Seigneur, on sait que on ne regarde jamais à toi en vain. On ne s'attend jamais à toi sans en être récompensé. Parce que tu rémunères ceux qui te cherchent. Alors, Seigneur, on s'unit maintenant dans la prière pour t'invoquer. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta bonté, ta grâce envers nous. On s'attend à toi. On te prie toutes ces choses. Au nom de Jésus. Amen.